here's a song that comes from Tanzania.
Bonjour, bonjour, bonjour. Galère, galère. Eh bien, bonjour, auditrices et auditeurs de Livres et Amis. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2024 et de nouveau, Dominique et Françoise. Alors, de nouveau, puisque vous avez dû le remarquer, nous avons été remplacés par des rediffusions de nous-mêmes, bien sûr, mais enfin tout de même. Nous avons été remplacés par des rediffusions pendant quelques semaines. Nous étions loin et nous nous sommes occupés de choses plutôt privées, etc. Donc voilà, nous n'étions pas à Marseille. Nous vous avons laissé avec, même à Marseille, l'automne, la pluie, etc. Et puis non, aujourd'hui il fait beau. La vie continue, la vie reprend, la vie culturelle aussi, la vie militante. Alors, la vie culturelle, bien sûr, est comme d'habitude, nos cinémas et nos théâtres habituels. C'est la rentrée depuis un moment déjà. Les inscriptions, les abonnements ont repris à la Joliette, à la Criée, etc. Et puis, comme c'est l'automne, c'est le moment des instants vidéo. Les instants vidéo, on vous en parle pratiquement tous les ans, parce qu'on aime beaucoup ces petits films en vidéo qui sont diffusés à la Friche et puis ailleurs, dans un certain nombre d'autres lieux de Marseille. Donc, les instants vidéo, c'est de façon générale du 17 octobre à je ne sais trop quand, en octobre ou en novembre, enfin c'est principalement du 17 au 20 octobre. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui s'y raccrochent jusqu'en novembre. Alors, il faut, comme souvent, aller sur Internet pour avoir le programme complet. Ce programme complet, vous l'aurez en allant ou en venant le chercher sur papier à la Belle de Mai, bien sûr. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Vous l'aurez donc avec les instants vidéo Marseille ou quelque chose comme ça. Merci donc aux instants vidéo et puis on va, pour ce qui nous concerne, parler un petit peu non plus de vie culturelle mais de vie militante puisque demain c'est le 17 octobre. 17 octobre, date anniversaire du 17 octobre 1961. Un certain nombre d'entre vous le savent ou s'en souviennent. 17 octobre 1961. Grande manifestation de la population algérienne de Paris et de la région parisienne. Manifestation contre un couvre-feu imposé par le préfet de police Maurice Papon. Et manifestation interdite par ce même Maurice Papon qui s'était, fait remarquer par ses bons services sous Vichy. Il n'a pas changé et le 17 octobre 1961... Il donne à ses troupes de police, avec d'ailleurs l'aval des plus hautes instances de l'État, il donne l'ordre de réprimer sauvagement cette manifestation. Les historiens discutent toujours du nombre de morts. Ça a été absolument épouvantable. La population d'hommes, de femmes, d'enfants qui manifestaient contre le couvre-feu qu'on leur imposait de façon totalement discriminatoire a été chargée par la police, arrêtée. Les personnes arrêtées ont souvent été torturées. Un certain nombre ont été jetés dans la Seine. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de corps n'ont jamais été retrouvés. Donc, en tout cas, des centaines de morts. Oui, ça, c'est sûr maintenant. Des centaines de morts du fait de la police française, ce 17 octobre 1961. Alors que les principales violences à l'époque étaient celles de l'OAS qui plastiquait, y compris des civils qui n'avaient pas grand-chose à voir dans l'histoire de la guerre d'Algérie, sauf que, en effet, ils exprimaient leur soutien à la population algérienne et à sa volonté d'indépendance. Demain 17 octobre 2024, eh bien, nous manifesterons sur les escaliers de la gare Saint-Charles à 18h à l'appel de toutes les organisations populaires marseillaises et des Bouches-du-Rhône, les syndicats, les associations, les mouvements, etc. Là, je crois que c'est vraiment unitaire. Vous pouvez y aller. J'espère que la police ne nous balancera pas du haut des escaliers de la gare Saint-Charles, parce que quand même, il faut toujours se méfier. Mais voilà, le rendez-vous, c'est 18h, escalier de la gare Saint-Charles, demain, 17 octobre 2024, pour commémorer et évidemment se dresser contre les violences policières, contre les politiques coloniales, contre cette présence, je ne sais pas comment on dit, insupportable, de la colonisation française qui se maintient en Kanaky, dans les Comores, dans les Antilles, etc. On pense, oui, à nos camarades martiniquais, là, qui se sont fait bien réprimer aussi ces derniers jours. Et puis, on pense toujours à nos camarades de Kanaky et des Comores qui continuent aussi à subir les violences policières. Donc, contre tout ça, tous dans les escaliers de la gare Saint-Charles, demain à 18h. Et puis, évidemment, j'aurais pu vous proposer des écrits militants. J'aurais pu, par exemple, vous proposer Didier Dennings, Cannibale, ou Didier Dennings, Meurtre pour mémoire. Je vais vous inviter à aller lire ou relire ces romans policiers, ces romans noirs de Didier Dennings. Cannibale, je pense que je vais faire un effort pour le retrouver parce qu'il est quelque part dans ma bibliothèque et il est justement sur la Kanaky, enfin on disait Nouvelle-Calédonie, hein, il y a un certain nombre d'années. Et Meurtre pour mémoire, c'est précisément sur le 17 octobre 1961. Donc si les uns ou les autres, vous avez des romans de Didier Dennings chez vous, ben, repenchez-vous sur ces romans contemporains, militants, qui défendent bien sûr les populations les moins privilégiées, les moins favorisées. Et on va essayer de retrouver pour la semaine prochaine Cannibale ou Meurtre pour mémoire. En attendant, on va faire dans le doux, dans le calme. Figurez-vous que j'ai ressorti, là encore, de ma bibliothèque un livre déjà un petit peu ancien de Nina Berberova. Et Nina Berberova, ben, c'est pas du tout le même topo, pourrait-on dire. Nina Berberova, c'est une émigrée russe des premières années après la Révolution russe, de 1917, bien sûr. Et elle arrive à Paris. Elle arrive à Paris avec plein d'autres émigrés russes. Elle est une intellectuelle, une femme de la littérature, pas connue, mais qui s'exprime beaucoup par l'écrit. Et elle fréquente les milieux non seulement russes, mais parisiens, de l'art, du surréalisme. De la peinture, de la sculpture, etc., etc. Et puis, elle vit donc, quand elle quitte la Russie, elle vit d'abord à Berlin, puis à Paris, on vient de le dire. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, elle va migrer vraiment une deuxième fois vers les États-Unis, puisque l'Europe lui a semblé violente et sanglante, évidemment. Elle va s'installer aux États-Unis, elle va entamer, on pourrait dire, une deuxième partie de sa vie. Elle va devenir enseignante de littérature russe à Yale, à Princeton, enfin dans des universités connues. Et elle se met à écrire. Disons qu'elle écrit plus sérieusement et qu'elle entreprend de faire publier ses écrits, puisque en fait, elle a toujours écrit. Elle est donc publiée aux États-Unis et puis en France, ben elle est publiée par Hubert Nissen. Vous savez, Hubert Nissen installé à Arles avec Actes Sud. Actes Sud publie d'abord L'accompagnatrice, qui est son premier grand vrai roman, et puis publie ce livre que nous avons entre les mains aujourd'hui, qui est un recueil de nouvelles, de textes poétiques, de textes qui font plutôt dans la douceur ou la mélancolie ou la nostalgie. Alors, je ne sais pas si la nostalgie est encore ce qu'elle était, comme disait une autrice également à propos des pays slaves d'Europe centrale. Mais Berberova, ici, écrit un recueil de nouvelles et de textes poétiques sous le titre de « Où il n'est pas question d'amour ». Alors, il n'est pas question d'amour parce qu'il est question de tout un tas d'autres choses, précisément, de tout un tas de, de sentiments du quotidien et de ressentis du quotidien autour, autour des migrants, on pourrait dire. Les émigrés russes à l'époque, évidemment, ils sont partis souvent avec de l'or, des bijoux, etc. Et pendant des années, ils ont vécu de la vente des objets de valeur avec lesquels ils étaient partis. Donc c'était des migrants d'un genre un peu spécial, mais finalement la voix de l'émigration qui s'exprime par Nina Berberova, c'est la voix d'une émigration, on pourrait presque dire, universelle. Émigrer, quitter son pays pratiquement sans espoir de retour, c'est toujours une douleur, une mélancolie, une nostalgie, je disais, qui en même temps est une survie, une volonté de survie. Et la voix de Nina Berberova, quand elle s'exprime pour les migrants russes de l'époque, c'est la voix d'une femme qui va de l'avant et qui va défendre toute sa vie avec des partenaires différents, dans des pays différents, comme on l'a vu, qui va défendre une certaine idée de... la douceur de vivre ou d'une nostalgie qui finalement maintient en vie quand même, mais avec toujours une espèce d'angoisse, une espèce de mal-être sous-jacent. Et Nina Berberova, je vous ai dit, elle devient célèbre à 85 ans, d'abord aux États-Unis, puis en France par Actes Sud. Mais on va retrouver dans les textes qu'on va vous lire maintenant, finalement, cette espèce de notion de nostalgie qui est partout dans ses écrits, dans ses nouvelles, dans ses poèmes en prose qu'on va vous lire ici, et qui émaille aussi, je pense, le vécu des migrants, parce que avoir quitté son pays, c'est toujours une espèce de sentiment, je ne sais pas comment on peut dire, irréconciliable, est-ce qu'on pourrait dire ça ? En tout cas, dont on ne se remet jamais. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans ces écrits nostalgiques, c'est qu'il n'y a aucune violence, il n'y a aucune colère, mais la nostalgie qui s'exprime nous dit bien cette espèce de vide de la vie du ressenti du quotidien quand on est déraciné. Quand on a eu pendant, au fond c'était le cas de Nina Berberova, une petite vie tranquille de bourgeoise, d'intellectuelle, et qu'on se retrouve brutalement, même si les amis sont toujours là autour, qu'on se retrouve brutalement dans un contexte évidemment totalement différent. Alors le premier texte que Françoise va nous lire dans une minute, c'est assez amusant. Je l'ai choisi parce que je me suis demandé si c'était Berberova ou Tchekhov qui l'avait écrit. C'est une espèce de petite vie de province, décrite tout tranquillement, un peu comme en ont justement les héros de Tchekhov quand ils hésitent entre leur vie à la campagne et leur vie à Moscou. Eh bien là, il y a la vie d'une famille russe dont le père s'en va, il voyage, il part pour Paris, pour les États-Unis, et puis on attend qu'il revienne. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas une nouvelle de l'émigration. Ben si, parce que le père part. Mais finalement, on continue à l'attendre. Et là, la mélancolie, elle n'est pas sur le fait d'avoir quitté son pays. C'est au contraire le fait d'avoir été quitté par quelqu'un qui est parti à un certain moment, reconnaît sa femme, par exemple, sans espoir de retour. Et donc, c'est une petite famille sans histoire dont le père de famille est parti. Alors, Nina Berberova a appelé ça les mêmes, c'est-à-dire la famille, les mêmes sans Konstantin Ivanovitch.
Que serait-il arrivé, se demandait parfois Natalia Petrovna, si quelqu'un avait voulu représenter toute leur vie dans une pièce de théâtre ? Le sujet n'était pas particulièrement adapté pour une pièce, mais plutôt pour un roman. Et pourtant, si quelqu'un s'était penché sur leur vie comme sur celle de leur entourage et avait écrit une comédie en trois actes, cette comédie aurait pu être montée et Natalia Petrovna, avec tous les autres, ensemble comme toujours, se serait rendue au théâtre. Mon Dieu, que de personnages! Inutile de les dénombrer tous, peine perdue, on n'arriverait jamais à se souvenir de chacun d'eux. À commencer par Natalia Petrovna elle-même, une femme des plus ordinaires, puis sa mère, ensuite ses enfants, Volodia et Luba, son oncle, la tante de Constantin Ivanovitch, son mari. Ce dernier resterait la plupart du temps dans les coulisses. Il faudrait aussi mentionner le fils d'un premier mariage de Constantin Ivanovitch, Mishka, âgé de 16 ans. En voilà assez, assez. Les trois coups venaient d'être frappés et le rideau se levait. « Mais où est donc Constantin Ivanovitch ?» chuchota quelqu'un dans la pénombre tout en essuyant les verres de ses jumelles. « Mais où est-il celui-là? Pourquoi n'est-il pas là ?» Pourtant, son nom figurait bien sur l'affiche, car sa présence était indispensable au bon déroulement de l'action. Mais voilà, il y avait longtemps qu'il ne faisait plus partie de la vie de Natalia Petrovna, comme d'ailleurs de celle des autres membres de la famille. Constantin Ivanovitch était parti avec éclat, déclarant avec force qu'il ne pouvait plus partager la vie familiale, qu'il y étouffait. Bien entendu, il a eu raison, pensa Natalia Petrovna. Il y avait quelque chose de ridicule dans le fait que tous les sept que nous sommes, nous allions toujours ensemble partout, chez nos amis, faire nos courses, au cinéma. Et si jamais la grand-mère tombait malade, il ne viendrait à l'idée de personne de rentrer chez soi pour se plonger dans une lecture ou entreprendre quelque occupation. Tous se rassembleraient autour d'elle et en éprouveraient un tel bonheur qu'ils n'envisageraient aucun autre mode d'existence. L'été, ils partaient à la campagne pour faire plaisir à la grand-mère et à l'oncle, puis à la montagne parce que la tante aime les voyages escarpés, et ensuite, ils se rendaient à la mer pour la santé des enfants. Ils occupaient trois chambres contiguës dans les pensions de famille où ils passaient leur temps à se rendre visite à la moindre occasion, un bouton à recoudre ou à quelle heure fallait-il se donner rendez-vous. Bref, ils créaient un tel désordre que le lendemain de leur arrivée, la femme de chambre ne savait plus qui était mariée avec qui et qui dormait dans quelle chambre. Constantin Ivanovitch avait, quant à lui, une vie intérieure, de sorte que cet éternel va-et-vient le gênait beaucoup. Il avait quitté la maison à un moment peu opportun, 6 ans plus tôt. À cette époque, on ne partait pas à la montagne. Luba n'avait alors que 2 ans et Volodia 5. Tous les autres travaillaient, bien évidemment. Même Mishka, qui savait à peine lire, livrait des pirojki pour l'épicier. Kozlobabine, la grand-mère tricotée, la tante collée et l'oncle peigné. Natalia Petrovna ne se souvenait plus au juste de ce qu'elle faisait à cette époque. Elle avait fait tant de choses, tâté de tant de métiers différents toutes ces années. Un jour, Constantin Ivanovitch lui avait déclaré « J'étouffe, ce serait sans doute le paradis pour un autre que moi, mais comprends-moi, Natacha. Comment puis-je continuer à vivre ainsi? Je suis la pensée même et la pensée atteint parfois Dieu, pas celui de l'Église, pas votre Dieu, mais le mien. » Elle le regarda avec une grande attention et beaucoup d'amour. « Oui, dit-elle, cela doit être très pénible pour toi, Kostia. Tu es un homme admirable, mais en même temps nous n'avons pas beaucoup d'argent. Tu pourrais écrire ton livre dans la salle à manger, le matin c'est plus tranquille. » Il eut un petit rire amer. « Penses-tu? Écrire, ce n'est pas suffisant. Il faut encore vivre, penser et parler. Tu peux aussi penser dans la salle à manger, personne ne viendra te déranger. Quant à parler, ai-je jamais contesté tes amis ?» En fait, d'amis, Constantin Ivanovitch en avait 3, tous du sexe féminin, 2 d'un certain âge et 1 jeune. La jeune n'était pas très belle et boitait assez bas. Natalia Petrovna s'ennuyait avec les 3, et il n'y avait pas qu'elle à éprouver cet ennui, les autres aussi le ressentaient. Écrire ? Constantin Ivanovitch ricana encore une fois. Si seulement j'étais un écrivain, suis-je vraiment un écrivain ? Natalia Petrovna fut prise d'une angoisse. Qui était-il ? Elle l'ignorait. Un philosophe ? Un prophète ? Elle n'osa pas le lui demander. Et il partit, sans laisser d'adresse. « Où ça ?» faisait l'oncle en ébullition. « Va-t-il donner de l'argent pour les enfants ?»« Le salaud ! Il n'a pas apprécié Natacha à sa juste valeur. Ce n'est tout de même pas à cause de cette boiteuse !» La grand-mère l'observait tranquillement tandis qu'il déménageait ses livres. La tante pleurait en silence. Le soir, en l'absence de Natalia Petrovna, tous les trois, Mishka y compris, versèrent des larmes. Il ne donnait pas un sou pour les enfants, qui ne semblaient pas lui manquer. Très vite, sa trace s'est perdue en Angleterre. Puis on apprit qu'il vivait dans une petite ville provinciale, quelque part en Écosse, qu'il avait obtenu des subsides ou une pension, et qu'il était entouré d'admirateurs. « Eh bien, cela signifie qu'il a eu raison d'agir ainsi, » pensait en elle-même Natacha. S'il était resté, il aurait sans doute été obligé de se livrer à d'insignifiants travaux manuels. 4 années passèrent, et soudain, une somme d'argent leur tomba dessus. À vrai dire, elle tomba sur la grand-mère qui était originaire de Lettonie. De plus, cet argent ne concernait ni l'oncle, ni la tante, ni Mishka. Pourtant, il existait entre eux une telle solidarité, et quelle solidarité ! Une solidarité joyeuse, rassasiée, harmonieuse, qui poussa Natacha jusqu'à écrire à quelqu'un en Angleterre pour essayer de retrouver Constantin Ivanovitch. Elle voulait lui envoyer un peu d'argent. Et on le retrouva et on lui envoya un mandat. Sa réponse fut la suivante. « Je ne puis utiliser ton argent pour mes besoins personnels. Je le consacrerai à notre œuvre. Il y a longtemps que j'ai fait abstraction de moi-même. J'ai trouvé la vérité là où je la cherchais. » À la suite de quoi, il fut élu président quelque chose, quelque part, et envoyé en Amérique tel un baryton. Il a eu raison, il a eu 1000 fois raison, répétait Natacha, pendant que les enfants étudiaient, que la grand-mère vieillissait, et que l'oncle et la tante avaient, eux aussi, quelque peu baissé. Premièrement, Constantin Ivanovitch n'aurait pas supporté notre vie misérable, puisqu'il est la pensée même, et la pensée c'est quelque chose comme un papillon. Dès que tu le touches un peu brusquement, tu gâches tout. La vie durant ces 4 années avait été très difficile. Aujourd'hui, cela semblait incroyable. Comment tous les 7 s'en étaient sortis ? Deuxièmement, s'il avait dû supporter toutes ces épreuves, qui le connaîtrait aujourd'hui ? Qui l'écouterait et l'inviterait en Amérique ? Aurait-il pu se distinguer autant et entraîner derrière lui non pas 3, mais 100 et même 200 femmes obéissantes ? Trouver la vérité, parler, écrire ? Comment imaginer qu'il aurait pu avancer dans la vie avec moi, les enfants et la grand-mère par-dessus le marché, assister d'année en année à la messe de minuit à Pâques où il se serait tenu en silence dans un coin, ou encore se rendre en foule à la foire comme nous y sommes allés hier avec Luba, Volodia et Mishka et tous les autres personnages de cette comédie ? Non, il avait suivi son propre chemin tortueux vers la gloire. Natacha posa sa main sur l'épaule de Mishka et dit « Tu es l'aîné, je te demande de te tenir tranquille et d'écouter attentivement. Aujourd'hui, nous irons entendre ton père. Souviens-toi que papa ne va pas aborder les futilités dont nous parlons du matin au soir. Il va donner sa conférence, sa prophétie. Ce sera la première fois qu'il parlera à Paris. Aujourd'hui, on s'amuse, demain on repart. » Telle fut la réaction de Mishka. Tandis que Luba et Volodia pouffaient.
Voilà, donc, Constantin est devenu célèbre, pourrait-on dire. La famille un peu réargentée voyage aussi. La famille est à Paris. Et voilà, ils sont tous les sept, ensemble, comme on dit, mais sans Constantin, puisqu'ils vont voir et écouter Constantin. Alors, comment peux-tu parler ainsi ? Il ne s'agit pas d'un cirque. Tu dois comprendre, pour beaucoup de gens, ton père est presque un prophète. Pas exactement un prophète, bien sûr. Enfin, je ne sais pas. Enfin, tu dois le respecter. Elle parlait, les enfants écoutaient. Le soir, ils allèrent tous entendre Constantin Ivanovitch, bien entendu tous les 7, selon leur habitude. Ils étaient curieux de savoir pourquoi Constantin Ivanovitch les avait échangés. Pourquoi ? Oui, nous ne l'avons pas apprécié comme il le fallait, pensait Natacha en installant ses enfants et en prenant place elle-même dans une salle froide et ennuyeuse, remplie de quelques dizaines de personnes solitaires. Une carafe était posée sur une table de bois peint. Il n'y avait pas d'eau dans la carafe. Natacha avait acheté en entrant un petit feuillet rédigé en anglais, un des discours de Constantin Ivanovitch récemment prononcé au Canada. Mais Natacha ne savait pas l'anglais. « Oui, nous ne l'avons pas apprécié comme il le fallait. Nous nous agitons, nous ne pensons à rien de sérieux. Et lui, il a tout abandonné et consacré sa vie à des choses élevées et parfaites. Il s'est libéré de notre routine implacable. » Une créature de sexe féminin sortit par une petite porte située à l'avant de la salle, une créature comme celle que l'on qualifiait parfois de mendiante. L'oncle fit du coude à Natacha et leva les sourcils. La femme, le dos courbé et les lèvres serrées, s'approcha de la table, y posa un cahier et rapprocha la chaise de cette table. L'oncle leva les sourcils encore plus haut et se penchant vers Natacha et chuchota « Oh, la bossue, la boiteuse oh, !»« Ben dis donc, toute courbée qu'elle était, elle était quand même mieux avant. »« Oh là là !» Natacha rougit. Quelqu'un toussa. La porte grinça à nouveau et cette fois, Constantin Ivanovitch entra. À vrai dire, Natacha ne s'était pas imaginé qu'un homme pouvait autant changer en quelques années. Elle fut stupéfiée par le teint de son visage, un visage parfaitement rose, les joues rebondies, rasées, la peau nette, l'expression d'une personne pleinement satisfaite. Un homme avec un tel visage ne pouvait plus ressentir aucun doute. Avançant à petits pas précipités, Constantin Ivanovitch saluait à droite et à gauche. Deux, trois applaudissements se firent entendre. Il s'assit sur le bord de la chaise, frappant de sa paume dodue le cahier posé sur la table. Les yeux clairs, dénués de toute expression, clignaient et il fixait devant lui le vide. « Mesdames et messieurs, dit-il en jetant un regard sur son cahier, je suis très heureux. » Les rares hommes présents dans la salle, ayant relevé leur col et fourré leurs mains dans leurs poches, prêtaient l'oreille. Une expression de fatigue, conséquente de soucis et d'un dur labeur, se lisait sur les visages. Les femmes, qui étaient nombreuses dans l'assistance, fixaient Constantin Ivanovitch avec confiance, mais tristesse. Natacha était immobile et écoutait. Il a rasé sa petite moustache, il a moins de cheveux, il ne porte plus son alliance. Elle l'observait d'un œil perçant. « Mais que raconte-t-il ? Il vient de dire qu'il est heureux. C'est bien ce que je pensais, il est heureux. Ah, mon Dieu, je n'arrive absolument pas à suivre ce qu'il dit. » Il parlait comme parlent les gens qui ne s'intéressent pas de savoir si on les écoute ou non. Qui les écoute ? Combien y a-t-il d'auditeurs devant eux ? On aurait dit une roue qui vrombissait. Il lui arrivait de lever la main gauche avec mollesse, il la reposait aussitôt avec la même langueur. Plus d'une fois, il avait fixé devant lui la carafe sans la voir, puis l'assistance. Pourtant, on pouvait penser qu'il en extrayait la quintessence de son discours. Il regardait l'assistance comme il aurait regardé la vérité originelle. Il parla exactement pendant 1 h 10 min. La plupart des termes qu'il avait utilisés avaient été inscrits dans le cahier en lettres capitales. Alors avec ses bras, il traçait des gestes concentriques et tel un épervier, il soulignait le texte, conforté par l'ecclésiaste. Lorsqu'il se tut et se leva, l'assistance applaudit. Il entreprit de saluer longuement et déjà, alors qu'on évacuait la salle, Luba demandait à sa grand-mère s'il n'était pas temps de rentrer à la maison. Mais lui, Constantin, saluait toujours. Tous les sept, se perdant et se retrouvant les uns les autres, se dirigèrent vers la sortie. Volodia et Mishka avaient hâte de respirer au plus vite une bouffée d'air frais. En quelque sorte, ils ressentaient une certaine gêne, donc ils allèrent en avant. Mais Luba restait pendue au bras de sa grand-mère. Tous, au fond, avaient terriblement envie de dormir. Et la conversation de vieilles femmes qui papotaient autour de la sortie ne les retenait pas davantage que les avait retenus le discours de Constantin. Natalia Petrovna et l'oncle fermaient la marche. Elle sentait que l'oncle ne pourrait plus se retenir longtemps et se mettre à juger Constantin Ivanovitch avec tout le bon sens du brave homme qu'il était. Il allait bien sûr le qualifier de caricature et de charlatan. Elle aurait tellement voulu éviter cela. À tout hasard, elle se préparait par la pensée à le défendre. Existe-t-il quelque idée ou beauté dans le bortsch ou dans la mousse de savon ? Ben oui, c'était ce dont, en fait, il avait échappé. C'est ce à quoi il avait échappé. Alors, mon oncle, vous voyez, il avait bien raison, c'est un homme cultivé. Konstochka, il irradie, il a une certaine lumière, un halo. Vous voyez, il a eu bien raison de partir. Voilà, donc Natalia admire toujours Constantin Ivanovitch et le petit groupe vit, comme le disait le titre, sans Constantin Ivanovitch. J'avais bien aimé ce texte parce qu'en effet, c'est très tchékovien et je me suis demandé pour accompagner ce texte très tchékovien ce que je pouvais vous proposer. J'avais d'abord pensé à Moussorgski et au tableau d'une exposition parce que entre les tableaux d'une exposition, vous le savez peut-être, il y a des mouvements musicaux qui s'appellent promenades. Et finalement, les promenades de Moussorgski entre les tableaux de l'exposition, c'est un peu comme Natalia Ivanovna qui va d'un endroit à l'autre avec cette espèce d'admiration pour Constantin qui l'a quitté. Et puis, c'était quand même un peu martial, les promenades de Moussorgski. Donc, comme Moussorgski a beaucoup été mis en musique par Ravel, eh ben, j'ai permuté de Moussorgski à Ravel. Et nous allons écouter de Ravel une partie de son concerto en sol qui est tout à fait contemporain du moment où les émigrés russes arrivent à Paris dans les années 20, à la fin des années 20, au début des années 30. Donc voilà, écoutons Ravel et puis nous reprendrons la lecture de Nina Berberova ensuite. Thank you. toute la douceur et en même temps la modernité de Ravel pour nous dire qu'on peut en effet être mélancolique et on peut aussi réagir dans cette nouvelle société du début du XXe siècle qui accueille donc les migrants et les émigrés russes à Paris. Il y en a beaucoup qui fréquentent en effet les milieux intellectuels de la musique et des arts plastiques. Et il y a Nina Berberova qui est là et qui écrit sur ce qu'elle voit autour d'elle et sur les gens qu'elle rencontre. Et là encore, la petite vie qui s'organise peu à peu dans cet exil plus ou moins doré. Vous verrez dans les détails de la vie quotidienne que finalement il y a des choses finalement agréables et puis d'autres qui font penser plutôt à une certaine décrépitude. Eh bien, nous allons reprendre la lecture avec Françoise et nous allons reprendre la lecture de ce que Nina Berberova appelle elle-même des petits poèmes en prose. Donc, en fait, des textes assez courts, nous allons nous en alterner la lecture, Françoise et moi, des textes sur la vie quotidienne, ce qui se passe dehors, ce qui se passe dedans, les gens qu'on rencontre, ce qu'on fait au quotidien, etc., etc. Un peu mélancolique, mais pas trop.
Des ouvriers travaillaient en plein vent sous la fenêtre. Un ouvrier au teint mat, vêtu d'une chemise bariolée et de pantalons de velours, pelletait du gravier entassé sur le bord du chemin. Les veines de ses bras se tendaient jusqu'à ses coudes noircis qui saillaient de ses manches retroussées. Il s'approchait d'une ornière irrégulière au bord de la route et y versait des cailloutis qui rendaient un son cristallin, puis l'égalisait tout en chassant vers l'intérieur de la cavité les gravillons éparpillés tout autour. Saisissant ensuite un seau rempli d'une eau trouble, il en arrosait la pierraille sèche et croustillante. Cette opération terminée, il poussait alors un cri insouciant et la machine se mettait en marche. L'engin émettait un formidable martèlement, tandis que de la vapeur s'échappait de sa cheminée de forme fantastique. L'ouvrier en chef, également au teint mat, mais plus sale que le premier, se penchait d'un air préoccupé hors de la lucarne à l'avant de la machine. Un énorme rouleau compresseur tournait lentement. La courroie de transmission suivait le mouvement. Mi-tank, mi-tracteur, la machine avançait en direction de l'ornière recouverte, plus qu'à rabord de gravier. Grinçant furieusement, elle aplatissait tout ce qui tombait sous sa roue, cailloux, branches, bousiers, ne laissant sur le sol qu'une tache sombre et sèche. Traînant avec effort un poids mort destiné à un travail terrible, exhalant une horrible odeur, la machine atteignait enfin l'endroit indiqué, roulait sur le gravier arrosé d'eau. L'ouvrier, lui, son seau à la main, se tenait à l'écart. Et de son immense rouleau rouillé, elle hachait et écrasait les pierres pointues. Elle avançait plus loin, puis revenait à reculons. L'ornière grinçait de nouveau et une fois de plus, elle avalait le jet d'eau envoyé par le seau, recouverte encore et encore par le rouleau monstrueux qui passait et repassait d'avant en arrière, rendant la route de plus en plus lisse, le gravier désormais transformé en ciment. Puis, le martèlement cessait, le silence régnait, tandis que le vent s'engouffrait dans les arbres et les rues, le jeune ouvrier rajustant sa casquette, sa pelle sur l'épaule allait rejoindre la fondrière suivante. Quant à l'ouvrier plus âgé, les cheveux déjà grisonnants, un doigt coupé, il allumait un cigarillo.
Oui, on aurait pu appeler ça l'homme et la machine. On pense vraiment à la lecture, à certains tableaux de Fernand Léger ou à certains tableaux futuristes italiens. On a l'impression de cette machine omnisciente ou omnipuissante et malgré tout des hommes autour qui travaillent justement autour de la machine. C'est un peu surprenant. On imagine l'auteur à sa fenêtre et on voit de cette fenêtre la machine justement qui se met en branle. Ça commence bien par « Des ouvriers travaillaient en plein vent sous la fenêtre ». Donc, ce premier petit texte, on pouvait l'appeler, par exemple, « L'homme et la machine », pour souligner l'importance, oui, du machinisme et de, entre guillemets, la beauté du machinisme dans les années 20 ou 30, dans l'art du XXe siècle, donc. On va continuer avec un aspect un peu plus naturaliste sur la nature elle-même. J'ai été surprise dans la rédaction parce que dans la mesure où l'auteur dit « je », moi j'avais l'impression que c'était Nina Berberova qui parlait. Mais finalement, elle met en scène un auteur masculin. Il y a des moments où on se rend compte que ça pourrait être un homme qui parle. Alors peu importe, on va dire que c'est un auteur neutre, un auteur qui nous fait part de ses sensations. Le vent soufflait et claquait dans les branches des arbres, séchant le linge rose et bleu des voisins. Il s'abattait comme une muraille, arrachant les feuilles sèches accumulées dans les recoins des cheminées. Elles formaient un tas touffu et mort au pied de la barrière. D'autres étaient restées accrochées sur la corde à linge. Quelques-unes voletaient encore dans la poussière soulevée. Seul l'érable, qui se trouvait tout près de notre maison, avait encore conservé une feuille unique, malicieusement enroulée, prête à s'envoler. Minée par les pluies, attaquée par le vent, elle continuait à exister en frémissant. Le vent s'efforçait de rassembler toutes les autres en tas et même là ne leur laissait aucun répit. Il les ramassait, les tassait entre elles, puis les éparpillait à nouveau, tel un croupier effréné, les précipitant vers la barrière, la maison et le portail. Comme si ces trois joueurs, s'étant mortellement ennuyés pendant des mois, avaient enfin trouvé une occupation si longtemps oubliée. Le vent traçait dans les flaques l'inscription de ce jeu. Il ne faisait que troubler l'eau et jusqu'au soir, il n'avait finalement rien écrit de sensé sur la surface frissonnante, noire, aux reflets micacés sur les bords, noire sous un ciel blanc et ne pouvant rien refléter. L'attardée, la petite feuille attardée, continuait toujours à vivre, frémissant à la moindre vibration. Mon regard posé sur elle, les cris de l'ouvrier sur la route, le grincement de l'immense rouleau émiettant les pierres et les réduisant en une bouillie compacte, tout cela, oui, tout cela dans la nuit. Encore une fois, criait le plus jeune des ouvriers qui avait remarqué quelque espace insuffisamment amalgamé à la roue, dont les aspérités seraient une menace pour les pneus des voitures et pourraient infliger un chaos imprévu à la carriole du brocanteur. Alors le rouleau compresseur se remettait en marche, rien que pour ce petit espace, laissant à nouveau échapper un jet de vapeur. Alors tout serait en ordre. Et recouverte par la poussière d'automne, la petite feuille frémissait toujours au vent. Je l'avais remarqué le matin en me réveillant. Je me levais en général assez tard. La propriétaire m'apportait le café et deux petits pains qu'elle confectionnait elle-même. Ils étaient toujours frais et même un peu moelleux à l'intérieur. Je sortais une jambe du lit et me mettais à réfléchir. Le poêle aspirait consciencieusement l'air froid de la chambre et restituait une chaleur douce mais régulière, réfléchie par les carreaux de céramique verte. Ma jambe pendant toujours hors du lit, j'y demeurais jusqu'au moment où je m'avisais d'avoir froid et de la rentrer sous la couverture. Une pensée obsédante m'envahissait alors et ne me lâchait plus, comme un souvenir urgent qui venait interrompre soudain le cours de ma méditation, m'entraînant dans le passé par une glissade trouble et inutile. Et puis, j'entendais les voix enfantines qui résonnaient à l'étage au-dessous. C'étaient les petites filles de la propriétaire qui revenaient de l'école. Je repoussais la couverture, appuyais mon coude sur l'oreiller et entrais enfin dans le monde réel. Le feu crépitait joyeusement, j'entrebâillais la petite porte du poêle et tout alors redevenait calme. La chaleur empourprée se répandait, le feu aux reflets framboises s'engourdissait. Je m'approchais de la fenêtre. Ayant jeté ma robe de chambre sur mes épaules, je regardais le temps qu'il faisait et j'oubliais, m'étant immobilisée jusqu'à une demi-heure. Jusqu'à ce que je ressente tout à fait les tiraillements dans les jambes à force de rester debout et que le fauteuil posée au milieu de ma chambre se met à craquer, son bois se met à craquer d'une façon inquiétante à cause de la chaleur du poêle dont la porte était restée ouverte. Alors je quittais la fenêtre et pendant ce temps, mon lit avait été fait et un jambon au petit pois avait été posé sur ma table. Ayant ouvert le journal, je m'y plongeais un long moment. Et je me laissais aller sans trace de souvenirs, finalement. C'était comme des souvenirs qui arrivaient par goutte, une deuxième goutte qui s'éternisait d'habitude avec les papiers peints du mur et qui m'obligeait à me tenir debout peu à peu, à me rendre jusqu'au lavabo derrière le paravent, à m'affairer avec l'eau, le savon, les brosses, à m'imprégner peu à peu aussi d'un parfum de menthe et d'œillet. Et puis quelqu'un derrière mon dos était en train de fourrager entre les bûches, de rassembler les assiettes, de faire le ménage, d'emporter les mégots. Une heure plus tard, je sortais faire une promenade. Et s'il pleuvait, l'ennui me saisissait. Voilà, c'est la première promenade. Vous voyez, c'est un peu la même idée que la promenade entre les tableaux d'une exposition. Et cette promenade introduit l'idée d'ennui parce que s'il pleut, l'auteur sort quand même, mais s'ennuie. J'ai écouté tout à l'heure dans la voiture. Ça m'a fait sourire aussi. J'ai écouté dans la voiture le rendez-vous sous la pluie de Jean Sablon. Ben, vous allez voir, c'est un vrai ennui, le rendez-vous sous la pluie.
Lorsque je m'ennuie, je sens que je suis la victime du temps. Les secondes bruissent sur le cadran de la pendule comme de grandes sauterelles. Leurs ailes sont palmées, légèrement incurvées et troubles, avec de grosses veines comme sur les feuilles d'érable. Leurs têtes sont petites et poilues. Elles bruissent autour de moi et j'oublie que le bruit provient de la pendule encastrée dans du granit rouge qui trône sur la cheminée. Toutes les demi-heures, elles sonnent bruyamment, douloureusement, étouffant pour un temps le bruissement des aiguilles qui reprend aussitôt après. Et je sais qu'il n'aura jamais de fin et que toute ma vie durant, l'aiguille va se mouvoir autour du cadran encore et encore. Les feuilles du calendrier s'envoleront une à une. Les jours se fondront dans une masse incolore et solide dans mon esprit. Je ne pourrai en détacher aucun, lui rendre vie, le forcer à se répéter, l'extraire du ciment du passé. Lorsque je sors me promener, vêtue d'un long manteau chaud, mes grosses bottines aux pieds, si solides que depuis 10 ans je n'ai pu les user, il est vrai que je sors peu et que mes vêtements sont de bonne qualité. C'est en général dans une rue déserte de la banlieue parisienne. Une déambulation qui suscite immanquablement le souvenir de Maupassant, un auteur que j'aime parce que je n'ai pas son talent pour décrire des vieilles femmes égorgées, des fonctionnaires scrofuleux et d'autres mignardises. Le but de ma promenade est uniquement de faire connaissance avec le quartier. Ce n'est pas que je m'intéresse, tel un authentique provincial à la croissance d'un ficus sur le rebord d'une fenêtre de la maison Bleu Ciel, célèbre dans le quartier. Une vieille comédienne goitreuse y vit. Les filles de ma propriétaire prétendent qu'elle conserve dans son goitre les aliments qu'elle n'a pas fini de consommer et que la nuit en cachette, elle achève de les manger. Ni qu'il me soit absolument nécessaire d'aller saluer le pharmacien qui louche sur les passants d'un œil effrayé derrière la balustrade en bois de sa vitrine. De ses mains velues d'une propreté douteuse, il ne cesse de fabriquer quelque chose d'invisible. Non, il y a longtemps que je me suis trouvé une occupation. Observer tout ce qui a été installé, posé et jeté autour de moi. Cette observation provoque chez moi d'intéressantes pensées qui, avec ma paresse, constituent l'essentiel de ma vie. Je rentre ensuite chez moi, le crépuscule ayant alors pris des teintes violacées. Il y a longtemps que les ouvriers ont cessé de travailler près de ma maison. Le tank tracteur y demeure tout froid de la rosée vespérale d'automne. Dans les ornières, maintenant comblées, les pierres se morfondent en une fusion invisible et silencieuse et ne font plus qu'un. Éclairée par la lumière qui tombe de la fenêtre de la salle à manger de ma propriétaire, j'essaie de distinguer la petite feuille recroquevillée sur sa branche, la dernière petite feuille complètement exténuée. Tout est en ordre dans ma chambre, et comme toujours le temps y bruit, La petite aiguille s'élève, progresse, puis retombe immanquablement, érigeant comme maintenant les étoiles dans le ciel et faisant apparaître sur sa pointe la lune qui contourne le soleil.
L'ennui, donc l'ennui à la maison ou l'ennui dehors, mais l'ennui lié à la solitude. Alors, la solitude, elle est rompue un certain nombre de fois dans la journée par la propriétaire ou les petites filles de la propriétaire qui, comme on l'avait vu dans le premier extrait, font le service pour ce locataire finalement tout à fait privilégié. Les deux petites filles de la propriétaire arrivent alors chez moi, m'apportant du pain, du sel, du poivre et le couvert pour le dîner. Une série de récipients contenant des condiments, mes médicaments, bref, tout ce qui m'est nécessaire. Elles dressent gentiment la table qui brille de tous ses ustensiles. Puis toutes deux me font face et posant sur la table leurs 20 petits doigts identiques, elles se mettent à jacasser doucement à propos du temps qu'il fait, de la vieille comédienne, de leur école, du chien, jusqu'à ce que leur mère survienne et les mette à la porte, me permettant alors de me plonger dans les vapeurs qui s'échappent de la soupière et des plats. Ça sera donc le dîner. Et le dîner, même s'il est pris en solitaire, il est suivi souvent de visites. On retrouve ici, vous savez ce que j'ai appelé tout à l'heure, cette espèce d'atmosphère tchékovienne. Les visites, par exemple, d'un dénommé Kroun. Et alors Kroun, je ne sais pas exactement qui il est, c'est un émigré, comme l'auteur. Un émigré un peu moins privilégié. Et on nous dit, Kroun arrivait vers les 8 heures du soir. Il me semblait quelquefois qu'il ne venait pas pour moi, mais pour mon poil, qui d'ailleurs à cette heure commençait à perdre sérieusement de sa chaleur. Mais enfin, il me disait à peine bonsoir et s'approchait immédiatement de la paroi vernissée, les mains croisées derrière le dos, puis posées sur la céramique. Il demeurait ainsi un moment, jusqu'au moment où nous prenions place pour notre partie de jeu quotidienne. Dites-moi, on ne se chauffe pas chez vous ? Ben, il me semble que non, répondait-il. Un jour, alors qu'il avait tiré sa chaise près du poêle et qu'il avait pris place en appliquant son oreille et les paumes de ses mains sur la céramique, je lui dis « Vous êtes fatigué ? C'est vrai que vous êtes toute la journée au travail, mais vous êtes assis toute la journée à votre travail. En fait, il serait plus sain pour vous de rester debout lorsque vous venez en visite. » Il leva les yeux au plafond, jeta un regard circulaire. Puis il dit bon, « Finalement, il y a bien peu de choses saines dans ma vie. Je préfère m'asseoir, je me contente de ce qui est malsain. » J'éclatais de rire et lui se forçait à rire aussi. Quelquefois, il arrivait que mon couvert ne soit pas encore débarrassé lorsqu'il entrait dans la pièce. « Qu'avez-vous mangé aujourd'hui ? » demandait-il alors en se penchant sur le plat. « Du veau aux champignons. Il en reste. En voulez-vous ? » « Non, non, j'ai dîné. Ben dans ce cas, prenez du dessert. C'est tout à fait permis. Ah, je vous remercie, mais je n'aime pas le sucré. » Et puis, tout de même, il examinait attentivement les restes de mon dessert. Il examinait aussi le pain. Il demandait où on l'avait acheté. Il faisait de même de la moutarde. Il insistait sur le fait que la moutarde excitait l'appétit. Lorsque la table était débarrassée, il était très concentré et il se remettait à étreindre le poêle. Vraiment ? Oui, oui, le poêle, c'était ça. C'était ça qui l'intéressait. Vous vous comportez avec ce poêle comme s'il s'agissait d'une femme. Je n'ai malheureusement pas de chauffage central, mais il vaut mieux étreindre le poêle qu'étreindre un radiateur. Alors, nous rions, nous faisions d'autres plaisanteries. Le faire rire n'était pas chose facile, mais je suis convaincue qu'une des lois de l'hospitalité est de faire rire les autres. C'était important. Le rire de Kroun n'était pas beau. Il riait fort, par saccades, et puis il se taisait si radicalement que j'en oubliais sa présence. Ma cigarette s'éteignait, on entendait parler à l'étage en dessous, et puis le silence était là, de nouveau rassurant, jusqu'au moment où il était interrompu par le carillon de la pendule. J'allais chercher sur l'étagère la boîte de jeu avec sa planche de fabrication artisanale mais solide et nous nous installions face à face. Kroon était l'inventeur de ce jeu. Des pions évoluaient selon un parcours compliqué, 5 pour moi, 5 pour lui, 5 pour l'ensemble. Après une bataille prolongée, dont le but consistait à s'emparer des pions de l'adversaire, nous terminions la partie, tard dans la nuit, tous les pions étant devenus communs, et finalement nous nous retrouvions à égalité. J'avais assimilé les finesses de ce jeu aussi bien que Kroon lui-même, qu'il avait inventé 8 ans auparavant et l'avait breveté, mais n'avait pas réussi jusqu'à présent à en tirer de vrais bénéfices. En Russie, 2 de ces jeux avaient été célèbres. La firme Doynikov, qui les commercialisait alors, lui versait une sorte de rente. Mais à l'étranger, il n'avait pas eu cette chance, et cela l'obligeait à accepter un poste ordinaire, un travail ordinaire, dans une société tout aussi ordinaire. Il portait souvent une chemise de couleur kaki et une cravate bariolée. Lorsque je lui faisais remarquer que ses pantalons étaient lustrés, comme si on les avait cirés, il ne se plaignait pas, mais répondait d'un air douloureux qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter d'autres. « Mais, je vous assure, vous devriez prendre des articles moins bon marché. C'est plus avantageux à la longue. » « Off, plus avantageux peut-être, mais je ne peux vraiment pas me le permettre. » Voilà, donc nous quittons Nina Berberova, nous quittons Kroon, nous quittons le poêle de céramique qui sans doute leur rappelle leur jeunesse en Russie. Et nous allons revenir vers Marseille avec son soleil pour la journée, avec sa manifestation demain. Et nous allons vous dire au revoir, bonne semaine et à bientôt. Galère, galère. À bientôt. Na kupenda malaika. Malaika. Na kupenda malaika. Ingekuwa Na